composée, tout à coup, totalise une espèce de chose vue qu'on ne voit qu'une fois, la fois qu'on regarde la peinture.
Ouais. Moi, je comprends. C'est une émotion que j'ai vécue, moi, personnellement, une seule fois aussi, devant au musée Van Gogh et à Amsterdam. Et c'est un triptyque avec des paysages. Et puis, effectivement, sans que je puisse me l'expliquer exactement pourquoi, j'ai jamais vécu ça devant une peinture, c'est-à-dire d'avoir les larmes aux yeux. Et tout c'est pas des peintures connues, donc il n'y a pas de conditionnement.
Van Gogh, le tournesol, mettez n'importe quel peint, peins-moi un tournesol, ça va être plate, probablement plate. Mm-hmm. Donc, le sujet de la toile, la valeur de la toile de Van Gogh sur le tournesol, c'est certainement pas qu'il y ait un tournesol, puisque si vous mettiez la même chose dans une autre toile, ça ne voudrait rien dire. Non, c'est pas ça, c'est la vision. Maintenant, je ne suis pas plus capable de vous définir vision que je suis capable de vous définir idée de chanson. Mm-hmm. J'essaye, mm-hmm. mais on n'y arrivera jamais.
Mais dans notre correspondance, justement, vous me repreniez souvent, parce que je donnais des exemples, et vous me disiez que ça se passe du côté du récepteur. Et ça, c'est comme si vous écartiez l'effet. Je vous ai mal compris, peut-être, mais c'est comme si le feeling... Bon, vous parlez de frissons, donc forcément, vous faites une place au feeling. Là, oui. Mais c'est comme si vous, votre objectif, c'était de décrire la chanson en tant que telle. Vous disiez tout à l'heure, écrite sur la page.
Bon,
mais il y a aussi comment on la reçoit, qu'est-ce que ça éveille en nous.
Ben, voilà.
Et puis, bon, il y a toute une part de subjectivité aussi.
Et tous les moyens et l'organisation des moyens qui sont dans l'œuvre ne servent qu'à produire en vous le feeling. Mm-hmm. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de dire, devant une œuvre, vous avez un feeling. Deux, c'est probablement le même feeling que j'avais, puisque vous l'avez, avant d'écrire l'œuvre, puisque mm-hmm. c'est ça que je vous ai communiqué. Mm-hmm. Troisième question, c'est quel moyen ai-je utilisé pour mm-hmm. déclencher chez vous ce feeling-là? Donc, quel est l'orgue? Qu'est-ce qui fait? Quels sont ces moyens? Comment sont-ils organisés? Comment s'enclenchent-ils les uns avec les autres qui fait que vous allez avoir devant cette œuvre-là l'émotion que vous dites que vous venez d'avoir? Et ce qui est remarquable, c'est que quand on passe d'un récepteur à l'autre, à peu de choses près, la description qu'ils font de ce que vous appelez le feeling est à peu près la même. Autrement dit, quand une œuvre est bien faite, elle est clairement le véhicule ou le catalyseur ou le déclencheur d'un feeling. Ça change votre cerveau. Mm-hmm. Une œuvre, quand elle vous touche vraiment, là, elle change votre cerveau pour toujours. C'est pas comme dur d'être un bébé là, qui est juste du fast-food, un bon moment passé. Ouais. Mm-hmm. Une fois qu'on a entendu la neuvième, là, elle est là pour la vie et elle vous a changé. Vous avez vu une partie du monde que vous n'aviez pas vu avant, quand vous écoutez la neuvième, ou les gens de mon pays, ou la toile de Picasso, ou le tournesol de Van Gogh. C'est là, l'œuvre d'art vous fait progresser comme être humain. Mm-hmm. Bon, la question que je me suis posée, c'est oui, puis ça se passe comment?
Oui, mais moi, le problème, si je vous écoute, je dis oui, je suis d'accord, mais si je réfléchis à partir de ma propre expérience, il y a effectivement des œuvres, prenons des chansons qui m'ont bouleversé, qui m'ont transformé, qui m'ont fait avancer intellectuellement aussi, qui m'ont permis de, je sais pas, qui m'ont ouvert l'esprit, disons. Malheureusement, ce ne sont pas nécessairement les grands hits. Et je me suis souvent heurté au fait que d'autres personnes ne ressentaient pas les choses de la même façon.
À ce moment-là, c'est probablement que vous avez mis dans l'œuvre ce qu'il n'y avait pas, là. C'est un peu comme j'aime cette tune-là parce que j'ai dansé avec ma blonde la première fois.
C'était quand même plus profond que ça.
Je suis incapable de parler dans l'abstrait. Mm-hmm. Il faudrait que vous me disiez, c'est cette chanson-là où j'ai réagi de cette manière-là. Je suis pas capable de. Discuter sur ces bases-là. Il faut que vous me. Vous me demandez de réagir à une affirmation dont je ne connais pas les termes. Ouais. Là. Mm-hmm. Comme ce qu'on appelle les guilty pleasures. Là. Tu sais, ça existe aussi, les plaisirs coupables. Mm-hmm. Mais ça, c'est autre chose. À ça, je dis, c'est que vous mettez dans l'œuvre ce qu'elle n'a pas. Là. Parce que dans l'œuvre, il n'y a pas le fait que vous avez dansé avec votre blonde. Là. Et en réalité, vous flippez sur cette œuvre-là parce que vous avez dansé avec votre blonde. Vous me parlez d'autre chose. Là.
Non, mais c'est pas relié à des anecdotes. Sinon,
je comprends.
Dans notre correspondance, je vous ai mentionné là, Gentle Giant, un groupe comme ça. Remarquez, c'est un groupe qui a quand même eu un succès mondial, là, mais ils n'ont pas de hit au même sens que on peut le dire de Satisfaction, par exemple. Bon, mais
c'est un degré différent.
C'est quand même des œuvres.
Gentle Giant, c'est pas marginal. Hein, on s'entend que c'est.
Ben, quand même.
Mais ils sont connus,
connais plein de personnes qui trouvent ça beaucoup trop compliqué, la rythmique de ces chansons-là. Ça se danse pas, ce qu'on va dire. Mais moi, cette complexité-là, c'est ce qui m'allume.
Ah, peut-être.
Mais c'est ce que j'aime.
Mais là, on change de sujet, là. Vous vous dites, personnellement, voici ce qui m'allume. Tant mieux pour vous. Tantôt, on parlait de chansons populaires.
Ben, je veux pas que ça reste personnel. J'aimerais beaucoup le partager. J'aimerais faire apprécier aux autres.
Non, mais à ce moment-là, il faudrait revenir à la première... au premier moment de notre conversation, qu'est-ce qu'une chanson populaire, n'est-ce pas? Alors, si vous me parlez d'une chose qui a allumé peu de gens, je ne dis pas que c'est pour des mauvaises raisons, je dis, OK, je constate que ça a allumé peu de gens, donc ça ne correspond pas à ma définition de la chanson populaire, c'est juste autre chose.
Oui, oui.
Mais c'est pas Yesterday, puis c'est pas Satisfaction, c'est autre chose. Je ne dis pas que ça n'a pas droit de citer. Je dis juste que ça ne correspond pas à la définition que je me fais de la chanson populaire et que ça n'était pas mon propos quand j'ai écrit le livre. Bon, je n'ai pas écrit le livre pour expliquer des chansons qui n'avaient pas été populaires.
Oui, je vois.
Il y a plein de raisons pour plein de raisons d'ordre aussi bien matériel comme contingent qui font que...
Mais parmi vos propres compositions, on connaît les plus connues.
Ouais.
Encore un péronasme, excusez-moi, j'improvise. Alors, par contre, est-ce qu'il y en aurait pour des chansons que vous avez composées dont vous êtes fier? Vous avez le sentiment là, d'avoir fait un bon travail et puis que ça n'aurait pas fonctionné?
Pas fonctionné?
Ben, c'est-à-dire que ça n'aurait pas eu le succès escompté.
Ou... Ah, là, vous présumez qu'on écrit toutes les chansons pour faire des succès numériques. Il faut écrire toutes sortes de chansons. Exemple, dans un spectacle, où il y a la chanson numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, là, dans l'ordre du spectacle, les chansons numéro 2 et 3 sont faites pour ne pas faire des hits.
Ah ouais?
Sont faites comme des moments presque anodins. Et à ce moment-là, la réussite de cette chanson-là, c'est d'être anodine. C'est ça qui est. Je donne un exemple.
Parce que les gens écoutent moins en début de spectacle.
Ben oui, t'es mal sur ton siège, tu regardes ton voisin, tu t'habitues au son, toutes les raisons. Ça va prendre...
Tu regardes comment le chanteur est habillé.
C'est comme au baseball, c'est le quatrième frappeur qui compte.
En autant que les autres sont sur les buts. Hein,
en autant que les 1, 2, 3 ont fait leur job. Mm-hmm. C'est ça. Bon. Donc, moi, entre autres, j'ai fait une chanson pour Emmanuel qui s'appelle... Je t'avais fait une chanson. C'est pas un hit. C'était pas voulu pour faire un... C'était à l'époque des 45 tours, là, même pas mis sur 45 tours. Mais c'était la chanson qu'il chantait en deuxième. Et il fallait que son côté pas engagé, pas juste plaisant, quasiment délibérément incomplet, mais servait sa fonction là. C'est sûr que la première chanson, généralement, ça prend le coup de poing sur la gueule, là. Mais c'est éphémère. C'est éphémère. Rendu à la 16e chanson, t'as oublié la première, là. C'est d'ailleurs pour ça que, au moins dans un spectacle, la première chanson, la chanson coup de poing sur la gueule, je la faisais rechanter à la chanteuse en dernier. Donc la chanson d'ouverture est en même temps chanson de fermeture, ce qui est le cas de Début d'un temps nouveau, où je l'avais écrite pour une chanson d'ouverture, mais on l'a ramené en dernier. Alors, donnait sa claque sur la gueule en partant, mm-hmm. c'était oublié, mais quand tu la jouais à la quand tu la faisais chanter à la fin, là, l'effet était épouvantable parce que, un, les gens s'en souvenaient au fur et à mesure que tu la jouais, et se l'appropriaient, là. C'est clair. Sans savoir pourquoi, ben oui, mais il suffisait que moi et René Claude le sachions.
Oui, oui, oui. C'est ça, c'est une stratégie.
Ben, bien sûr. Ouais. Est-ce que j'ai fait la même chose avec Et c'est pas fini? Je me souviens plus. Peut-être que oui. J'ai peut-être fait la même chose avec Emmanuel Et c'est pas fini. Chose certaine, c'était la chanson de fermeture. Là.
Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est intéressant de vous l'entendre dire. Votre but n'a pas toujours été de faire des hits. Vous avez aussi conçu des chansons qui avaient une autre fonction, qui pouvaient prendre leur place autrement.
Des fois, oui, mm-hmm. Y compris des fois des chansons où délibérément tu veux comme restreindre les dimensions. C'est un peu comme dans une messe, t'as l'Eucharistie, des grosses affaires, mais t'as aussi des trucs qui sont beaucoup plus intériorisés, beaucoup plus... Parce que c'est quasiment, en tout cas de mon point de vue d'un spectacle, il y a des passages obligés vers l'intériorité pratiquement monastique. Il faut être capable de prendre le public en spectacle sur disque et de le mettre tout petit pour que t'entendes voler une mouche et que c'est quasiment pas la peine à la fin d'applaudir. J'en ai écrit une, entre autres, pour Emmanuel, qui s'appelait « Touche mes yeux », où c'était délibérément sur le mode prière, quasiment.
Oui, oui, oui.
Avec quelques...
Est-ce qu'elle le faisait en spectacle,
oui, bien sûr.
Avec les quatuors à cordes?
On avait une formation... piano, guitare, basse, drame, percussion, comme d'habitude, la formation classique. Nous, pas. Dans ce temps-là, on n'avait pas le fric pour avoir des violons, ni les moyens technologiques pour les faker en programmation. Il faut faire ce genre de chansons. Et il y a aussi, pour moi, comme compositeur, l'envie de tester certaines choses, certaines formes de lignes mélodiques. Et tu le fais pour tester, non pas pour qu'elles aboutissent. C'est un des moyens d'éviter la recette. Tu dis, oui, j'ai fait ça, là, mais on essaie-tu de prendre ce chemin-là pour...
D'ouvrir le champ de perception.
D'ouvrir ta panoplie de moyens. Et dire, OK, le moyen... On essaie-tu de faire une chanson où le moment le plus intense de la chanson n'est pas dans le refrain? C'est une belle gageure, hein?
Sur la note la plus haute.
Et c'est pas fini, c'est ça. La chanson, c'est pas fini. C'est que le moment le plus intense, c'est dans le monde. C'est pas le refrain, ça. Le refrain, c'est j'ai pas fini, Mais pour moi, ça m'amusait de créer une espèce de paroxysme qui ferait désirer un moment où tu es plus sur des plateaux, donc plus confortable, ce qui est le refrain. Mais pour ça, il fallait, créer une tension, la faire déboucher sur un paroxysme, et après ça, atterrir sur le plateau du refrain. Alors, une espèce de composition en trois parties, là, ou en trois actes, là. Ça m'intéresse.
Vous analysez dans votre livre, vous vous rendez compte justement de ce processus par rapport à cette chanson-là en particulier.
Oui, tout à fait, oui. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça de la création. C'est de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui serait nouveau tout en obtenant le résultat d'efficacité? Quels sont les nouveaux moyens d'efficacité? Pas nouveau tout court, là. Ça me pue au nez. Mais nouveau en termes de nouvelles efficacités, là, je suis chez moi.